aussi afin que celui qui lit puisse courir. J'aimerais simplement reprendre la lecture dans le livre de Habacuc. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Chapitre 2e. Verset 1er. J'étais à mon poste. Habacuc, chapitre 2e, à partir du verset 1er. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Il était là comme la sentinelle. Il gardait. Et il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc sur sa tour, il veillait pour entendre la voix du ciel et ce que je répliquerai. Donc il est dans une disposition, il veut répliquer. Il veut riposter, il veut contre-attaquer après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole. Elle dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ne perdez pas votre page, mais dans la 2e épître de Pierre. Chapitre 1er. Partir du verset 16e. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, la Bible n'est pas un livre de fables, que nous vous faisons connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre sa voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, sale, desséché, c'est ce que veut dire ce lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Gloire au Seigneur. La parole prophétique. Dans l'épître aux Galates, chapitre 5, verset 7, Paul dit « Vous couriez bien ». Bien sûr, nous sommes dans une course, mais vous couriez bien. Il les amène à l'interrogation « Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Nous le savons, quand Paul écrit aux Galates, ils avaient bien commencé leur course et des faux docteurs avec de faux enseignements ont perturbé les chrétiens et leur pose cette question, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, de Dieu et de Jésus-Christ. Je veux croire que chacun est encore dans la course, que les jeunes sont dans la course, et que celles et ceux qui sont déjà d'un âge sont encore dans la course. Alors il ne s'agit pas d'un marathon, bien sûr. Chacun va à son pas, mais néanmoins nous sommes dans une course. Pourquoi, dans la première lecture, nous avons médité dimanche dernier sur ce que je répliquerai après ma plainte, et on sait sa crainte, c'est jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu ne m'écoutes point. J'ai crié vers toi la violence et tu ne me secours point. Et puis aussi, la loi, elle n'a absolument aucune force, aucune vie. Il était dans une attitude spirituelle dont je n'ai pas à développer, mais il était là sur sa tour comme quelqu'un qui était prêt à riposter. Avait-il une bonne disposition de cœur? Je vous laisse le soin d'apprécier, mais c'est difficile de pouvoir dire ce qui peut se passer dans le cœur d'un être humain. Toujours est-il que le Seigneur est celui qui va lui adresser la parole et le prophète n'aura rien à répliquer. écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Et même afin que celui qui lit puisse courir. Il parle de prophétie. Donc, le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira point si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Et le juste vivra par la foi. Bien-aimés, dans la foi, on pourrait, dans cette situation internationale, nationale, se poser quelques questions, pas vous, mais le monde. Mais certaines questions peuvent nous amener à l'interrogation. Mais nous sommes des hommes et des femmes de foi et de prière. Pourquoi l'innocent souffre-t-il? Pourquoi le juste souffre-t-il? Pourquoi Dieu permet-il le mal et la souffrance? Et pourquoi le mal triomphe-t-il? Et pourquoi l'injustice triomphe-t-elle? Toutes ces questions doivent nous amener aussi à sonder la parole de Dieu avec sagesse, avec intelligence et intelligence spirituelle, avec l'aide de la parole de Dieu. J'ai amené une des Bibles qui sont dans mon bureau. C'est une toute petite Bible. On dirait que c'est une Bible de poche. Elle a été imprimée en 1857 et on me l'a offerte et je suis un amoureux de la Bible. Et vous aussi? On me l'a offerte il y a au moins 45 ans. J'étais pasteur dans la ville de Vimoutiers. Je me souviens plus très bien des circonstances, mais toujours est-il que j'ai su, quand on me l'a offerte, cette Bible appartenait à un soldat. Et ce soldat a fait la guerre de 1914 à 1918. Et cette Bible, elle a été le soutien dans les tranchées et autres. Ce soldat avait sa Bible. Et je crois que c'est important, dans tous les moments difficiles, dans tous les moments de réjouissance, que nous gardions notre Bible, que les dames aient une Bible dans leur sac à main, que les messieurs aient aussi leur Bible aussi, pas une aussi grosse que ça, il y a tellement des évangiles, c'est tellement beau aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est qu'on n'est la parole de Dieu avec nous. Que dans notre course, nous puissions la lire. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, chapitre 3e, verset 1er, dans une version, « Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et c'est pour vous une sécurité. » La parole de Dieu est pour nous une sécurité. Elle ne nous place pas dans l'insécurité, elle nous place dans la sécurité. La parole écrite est notre sécurité. c'est une sécurité, c'est une solidité. Et plus que jamais, où l'on voit les attaques contre Dieu, contre sa parole, le Seigneur, de par le monde, a des millions et des millions d'hommes et de femmes qui sont en relation, en communion avec le Seigneur et qui ont la parole de Dieu. Dieu fait un travail merveilleux et extraordinaire parmi nos enfants, parmi notre jeunesse, parmi nos ados et parmi aussi nos personnes. Il fait un travail merveilleux. Nous prierons tout à l'heure pour le petit Matisse et lui rendant visite hier soir, il me disait « Je t'attendais ». Et je me dis à 5 ans, c'est formidable, il attend. Il attend. Et j'essaie d'être le plus fidèle pour lui rendre visite. Et c'est magnifique quand il a posé les questions à sa maman sur le retour de Jésus. Nous partirons avec Jésus. Je me suis dit 5 ans. C'est formidable. C'est merveilleux. Ils sont ouverts à la parole de Dieu. Qu'ils restent ouverts à la parole de Dieu. La parole prophétique, dit l'apôtre Pierre, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Il est vrai que nous ne sommes pas dépassés, mais il y a bien des décennies en arrière, je ne dis pas qu'il y a eu de l'exagération, mais interpréter la prophétie, c'est parfois assez difficile. Et nous sommes devant la situation, une chose est sûre, c'est que les choses sont bien en place, et nous sommes appelés à marcher et à courir avec la parole de Dieu. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, dans un lieu desséché, dans un lieu sale. Et la parole prophétique est une lumière dans ce monde sombre et confus. Déjà Pierre parlait de cette génération pervertie le jour de la Pentecôte. Et puis, aussi combien l'apôtre Paul aux Philippiens disait dans cette génération, pourtant, la parole de vie. Quelle est notre espérance au milieu de cette désespérance? C'est Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et nous voulons continuer à dire à nos enfants, nos petits, notre jeunesse, quel que soit notre âge, n'ayez pas peur. Une phrase qui a été reprise par quelqu'un, mais nous sommes en droit de la reprendre, et non seulement de la reprendre, mais de la vivre. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Ne craignez pas, n'ayez pas peur, c'est moi, je suis !» Quelle sécurité de vivre avec notre Seigneur et la parole de Dieu. En attendant, dit l'apôtre, que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. La parole prophétique, la parole qui a été révélée. Aucune prophétie n'a été l'objet de l'écrit par un homme ou autre, mais c'est des hommes faillibles, rachetés par grâce, sanctifiés, marchant avec le Seigneur, ce qu'ils ont écrit, reçu par Dieu, en vision, en songe, par révélation, ce qu'ils ont écrit, c'est infaillible. L'infaillibilité n'existe en aucun homme. Elle n'existe qu'en Dieu, en Jésus-Christ et le Saint-Esprit, et nous n'avons point à rougir, cette parole, elle est infaillible. Elle a traversé tous les siècles où l'Église a été malmenée, mais depuis l'entrée dans le XXe siècle, l'effusion de l'Esprit qui continue à se répandre et plus de 2000 langues, la Bible a été traduite, plus les dialectes, ça se répand, ça court, comme dit Paul, que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien-aimés dans la foi, quand je lis dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 35, au chapitre 11e, verset 35, tout ce chapitre est glorieux et merveilleux. Mais il y a quelques versets quand même, et ça a été donné aux Hébreux qui passaient par des temps difficiles, nés de Dieu, et aussi des hommes et des femmes païens convertis à Jésus-Christ. Il dit, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres, par contre, ont été torturées, refusées d'être délivrées. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, même les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, torturés, sciés en deux, serait le prophète Ésaïe, ou mis à mort par l'épée. Certains ont dû mener une vie errante, allant çà et là, couverts de peau et de moutons ou de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités par un monde indigne d'eux. Ils ont erré dans les déserts ou sur les montagnes, se réfugiant dans les cavernes et dans les antres de la terre. Dieu a rendu à la fois témoignage, Dieu a rendu à la fois de tous ces hommes un excellent témoignage. Aucun d'eux n'a vu se réaliser ce qui leur était promis, afin que celui qui lit puisse courir. C'est une persécution de par le monde contre les chrétiens. Et quand je vois, et quand je lis les rapports où la persécution est toujours de rigueur, dans certains pays athées, mais l'athéisme est en train de diminuer, et la parole de Dieu, elle se répand. Et les chrétiens se multiplient. C'est là quelque chose d'extraordinaire. Faisons confiance à Dieu. Il est digne de confiance. Et notre devoir est donc de prier. De prier. Parce que nous avons l'enseignement de Jésus. Prier. Comme dit l'Épître aux Hébreux, vous n'êtes pas prisonniers, mais faites comme si vous étiez prisonniers. Vous ne l'avez peut-être jamais dit, mais quand le Seigneur m'a appelé et que j'ai beaucoup voyagé, et quand je voyais les prises d'otages et que je ne travaillais que sur les places publiques pour l'implantation d'églises, je me disais, j'ai la protection de Dieu et j'y crois parce qu'il me l'a dit, qu'il m'accompagnerait partout où j'irai, mais lisant la Bible, j'ai vu des serviteurs en situation difficile. Et je me suis intérieurement fortifié, encouragé, parce que je me suis dit, si un jour t'es arrêté, si un jour tu deviens un otage, mais il faudra tenir le coup psychologiquement. Eh oui, j'ai pas du tout que j'ai envie d'être pris en otage, hein. Et de faire la une, c'est pas du tout bon genre, hein. Mais Dieu nous a gardés. Il était fidèle. Mais nous avons besoin de prier. Ne nous arrêtons point de prier. Parce que plus nous allons prier, plus nous allons entrer dans le plan de Dieu, dans le plan du Seigneur, et plus notre vie sera forte spirituellement, plus nous serons paisibles spirituellement, plus les choses nous permettront d'être dans le repos. Quand dans le livre de Daniel, la chute de Babylone, la chute de Nebuchadnezzar, on voit le temps des nations, etc., ce temps qui, plus de 25 siècles, pour certains, mais 1967, sauf erreur, la guerre des six jours. Quand on voit les Juifs, les avions vont bientôt décoller et ne savent pas ce que l'ennemi a préparé. Et là, ils auraient peut-être été vaincus. Mais Dieu a des armes dans le livre de Job. Du brouillard, de la grêle, de la neige, de l'eau. Et ce matin-là, il y a plein de brouillard. Les avions ne peuvent pas décoller. Et heureusement que les avions n'ont pas pu décoller. Et dans notre vie personnelle, vous savez, parfois, on a aussi du brouillard qui nous arrive, qui nous empêche de faire ça ou ça, qui est en réalité une protection de Dieu. Je me souviens, j'étais stagiaire dans la ville de Nogent-le-Rotrou et je travaillais et j'étais représentant de commerce dans une grosse firme. Et puis, on avait un véhicule de société. Et le matin, j'arrive près de mon véhicule et le pneu de la voiture crevé. Alors, bien sûr, je savais faire. Mais c'était tellement serré le boulon, tellement verrouillé, impossible. Je me suis dit quand même, que va dire le directeur? Je ne vais pas pouvoir voir tous les représentants de tout cela. Puis d'un seul coup, ça se débloque. Et j'arrive, j'étais bien sûr le dernier. Et je dis au directeur ce qui est arrivé. Et je laisse tout le dossier, argent, etc. dans le bureau du directeur. Et je m'en vais, bien sûr. Et le lendemain matin, me présentant, eh bien, pendant que j'étais avec mon problème de pneu, je dis que Dieu avait dû mettre un peu de brouillard, mais il n'y en avait pas, vous comprenez dans quel sens je le dis. Quelqu'un des ouvriers était rentré dans le bureau, il avait pris quelques enveloppes, mais comme il était passé avant, il n'a pas pu prendre mon enveloppe. Vous comprenez ? Un ouvrier était entré dans le bureau. Il avait volé des enveloppes. Mais à cause de mon pneu, il n'a pas pu prendre la mienne parce que je suis arrivé en retard. Et des fois, il y a des circonstances, il y a du brouillard. Nous avons aussi des empêchements. Des empêchements. Et ça, nous n'aimons pas les empêchements. Parce que nous sommes des gens heureux. C'est vrai, hein? le matin, on est à l'heure au travail. On est des gens heureux. C'est vrai ou quoi? Les petits, dépêchez-vous! C'est à telle heure, la maîtresse ne va pas être contente. Le professeur ne va pas être content. On est des gens heureux, non? Et quand on n'est pas désheureux, mais on a un empêchement, un brouillard, c'est pas possible. Bien-aimés dans la foi, nous devons vivre avec Dieu. Ne pas voir chaque empêchement comme venant de Dieu, parce qu'il y a des empêchements qui parfois viennent des ténèbres. Nous en sommes conscients. Et ça, c'est pour arrêter notre course. C'est pour arrêter notre course. Je reviens à la protection de Dieu. Un jour, nous étions dans le culte, là, et nous étions en train de louer, d'adorer le Seigneur, et il y avait au moins à cette époque 250 personnes. Et dans mon cœur, dans ma tête, j'étais en train de penser, Seigneur, je quitte un lieu où je suis en pleine sécurité, et demain, je vais aller dans un lieu où règne l'insécurité, et je crois que c'était le départ pour le Tombouctou au Mali. Et au moment où je pense ça, où je suis en sécurité, un homme rentre, il vient jusque sur le devant, c'est un commerçant, et il nous insulte tous. C'était un dimanche, parce qu'il était commerçant au coin de la rue, et quelqu'un avait mis son véhicule devant son commerce, dont il était fermé. Alors, bien sûr, des frères l'ont sorti. Il dit, je sais que j'ai tort, mais je vais nouveau rentrer pour mettre le désordre. Nous avons continué à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur, à bénir le Seigneur. Mais je me suis dit, je me croyais en pleine sécurité. En réalité, j'ai vécu l'insécurité. Et j'ai dit aux chrétiens, je ferai respecter l'ordre, je déposerai plainte, demain matin, à la police, il a dû se présenter. Et les jeunes filles ont dit à mes enfants après, on n'aurait jamais cru que ton père aurait déposé plainte. Et les relations avec les voisins sont excellentes, puisque ce midi, nous sommes tous conviés à nous retrouver là, dans un endroit de la rue, pour se retrouver entre voisins et voisines. C'est formidable. C'est formidable. La faiblesse, c'est pas toujours de se laisser faire. Hein. Et oui, nous croyons, et nous ne sommes pas toujours. Combien, bien-aimés, je terminerai, soyons solides dans notre foi. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de lire la Bible. Regardez si votre temps le permet de revenir ou de venir le mardi soir. Je connais votre travail, c'est pas toujours facile. Je me souviens d'un couple qui avait un bébé. Le matin, il partait à 7 heures. Il était tout petit bébé. Il allait chez sa nourrice. Les parents travaillaient le soir. Il revenait à 6 heures, 18 heures, 18 heures 30. Et je me disais, mais comment il peut venir à la réunion de prière à 19 heures 30 ? C'est difficile. Je vous encourage non point à pas venir, mais je connais votre programme. Je me doute de vos programmes. On court, mais prenons le temps de nous arrêter un instant, de prier, de lire la Bible. Et le Seigneur nous gardera. Il nous protégera. Chrétiens, enfants de Dieu des temps de la fin, n'ayons pas peur, peut-être de la mise à l'écart, à l'index à cause de notre foi, à cause de notre solitude, à cause de ce que la calomnie. Paul dit, je ne cours pas comme si je n'avais pas de but. Nous avons un but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous eut ouverte ayant les regards sur Jésus. Nous sommes environnés d'une si grande nuée, chapitre 12e de l'Épître aux Hébreux. Qui était cette si grande nuée de témoins? Ben, c'était tous ceux du chapitre 11e. Tous ces hommes. Et dans notre course, Abraham nous dit courage. Moïse nous dit courage. J'ai eu des décisions aussi à prendre. Des grandes décisions. La foi nous amène à prendre des choix, à faire des choix. La foi, des fois, nous amène à des positions aussi. Et je disais, j'étais dans le monde professionnel. Nous avions une très, très grande clientèle à cette époque. Et je disais à mon directeur, qui était le patron, qui était le fils du PDG, je disais, vous savez, monsieur le directeur, ne me demandez jamais de faire un compromis, ne me demandez jamais de faire ça ou cela, je vous quitterai, c'est pas possible, ma conscience ne me permet pas de faire ça. Il me respectait dans ma conscience. Et nous étions très bien vus. C'était pareil pour tous les représentants. La foi nous amène à faire des choix parfois. Et on craint. Et puis Dieu aplanit le sentier pour nous. Dieu fortifie notre cœur. Je cours comme quelqu'un qui fait tous les efforts pour franchir la ligne d'arrivée. Et Paul dit, je me bats contre un véritable ennemi qui est la chair, mais je la discipline, ma chair, mes pensées, mon corps, et je soumets tout cela à l'Esprit de Dieu. Terminons par le psaume 13e. C'est David. Et ça peut vous concerner. Psaume 13e. Psaume de David, verset 1er. Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. » Peut-être vous pourriez ajouter encore des jusque-à quand. Vous pourriez ajouter la liste encore, hein. Mais ça ne va pas changer grand-chose, hein. Mais psaume 66e, verset 16e. Venez. Écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et vous pourriez dire à votre voisin, voisine, venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue. N'a-t-il pas fait beaucoup de choses pour votre âme? J'ai crié de ma bouche et la louange a été sur ma langue. On pourrait avoir un moment de louange. Seigneur, ce moment de louange, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Gloire à toi, cher Seigneur. Je veux que ma vie soit remplie. Oui, je veux que ma vie soit remplie de toi. Je veux marcher avec toi. Je veux que tu marches avec moi. Ô, gloire à ton nom. Je veux raconter ce qu'il a fait à mon âme. Les moments de joie, les moments difficiles. Je veux me souvenir des bienfaits de Dieu, des grâces de Dieu, des bénédictions du Seigneur. Alléluia. Je veux que ma vie soit remplie. Pour ceux qui le souhaitent, chacun se sent libre, on va se lever et on va chanter ensemble « Je veux que ma vie soit remplie ». Prière, merci de marcher avec nous et nous marchons avec toi. Nous voulons que ta parole reste et demeure dans notre cœur. Nous ne voulons permettre à personne de retirer ce que tu as déposé. Et nous te louons dans le nom de Jésus-Christ. Aide-nous ensemble dans notre marche. Fortifie-nous, renouvelle-nous dans tout ce dont nous avons besoin d'être renouvelés. Merci de nous encourager. Tu ne t'es jamais découragé, Seigneur. Tu ne t'es jamais relâché. Nos yeux sont fixés sur toi et nous te remercions parce que ce chemin, tu as permis de le traverser pour que nous le puissions le traverser avec ton aide et ta grâce et ta bénédiction. Amen.